écoutez le studio Kalangou, il vient d'être 17h, tout de suite le journal en français avec Rafika Taher. À la une, aujourd'hui 3 janvier 2022, Isaka Isaka, le lutteur de Dosso et le roi des arènes de cette 42e édition de lutte traditionnelle qui s'est achevée hier. Dans ce journal, le directeur technique de la lutte revient sur les particularités de cette compétition. Le prix de la baguette de pain a augmenté dans certaines boulangeries et vendeurs détaillants à Niamey, à suivre des consommateurs mécontents dans un instant. La loi nigérienne oblige toutes les hautes autorités à déclarer leurs biens sous peine de sanctions. Les détails dans la partie magazine. Bonsoir chers auditeurs et auditrices, bonne et heureuse année à tous. Le nouveau variant Covid-19 Omicron, découvert en fin novembre 2021 en Afrique du Sud, a été identifié au Niger selon le Conseil des ministres du 30 décembre 2021. Dans un point de presse le 1er janvier 2022, le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Meinassara, a annoncé 27 nouveaux cas d'Omicron identifiés lors de la dernière semaine du mois de décembre. Selon lui, c'est la présence de ce variant qui expliquerait ces derniers jours le nombre de plus en plus croissant de cas positifs de Covid-19 au Niger. Une situation inquiétante, estime le ministre de la Santé, qui rassure que le Niger a renforcé les mesures de surveillance. Tout le Niger a vibré hier après-midi à l'occasion de la finale de la 42e édition du championnat de lutte traditionnelle qui a opposé le lutteur de Dosso à celui de Maradi à l'arène de Niamey. À l'issue du combat, c'est Isaka Isaka de Dosso qui remporte le sabre national et Aibo Hassan, son adversaire, s'est contenté de la deuxième place. Olivier Asogbavi était à l'arène et a recueilli les avis de quelques spectateurs.
Je suis de Dosso. D'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici. Nous remercions d'abord Isaac Isaka qui a fait l'honneur de la région de Dosso. Que Dieu veille sur lui. Je remercie vraiment Isaac Isaka.
Je ne suis pas fier de ça. C'est quand même Isaka l'a mérité. Il a mérité le sabre national. C'est génial aussi.
Ça fait longtemps que je ne suis pas parce que moi je ne vais plus au Niger. Voilà pourquoi. Mais cette année, Dieu m'a donné la chance que je sois là. Tous les lutteurs, vraiment, ils ont fait de leur mieux. C'est tout ça de Tilaberi. Vraiment, ma passion, c'est la lutte. Malheureusement, je vis maintenant en Europe, je ne peux pas tout voir. Vraiment, c'est bien. Je suis très, très, très contente.
Ce championnat de lutte qui vient de s'achever a été marqué par plusieurs particularités, tant du côté des lutteurs que des spectateurs, selon Malambarka Akoda, le directeur national de la lutte. Il revient sur quelques points saillants au micro d'Assoumane China.
Cette année, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont remplacé beaucoup d'anciens lutteurs et ces jeunes-là étaient venus avec beaucoup de détermination. La lutte, c'est pas seulement le sabre ou bien la coupe. Les gens étaient vraiment disciplinés. L'objectif de l'État, c'est la cohésion et l'unité nationale. Cette année, par rapport aux autres éditions, on peut dire que c'est même impeccable. Sur le plan arbitrage, sur 19 réclamations, seulement 2 réclamations où les arbitres ont perdu, ils ont gagné les 17. Une autre particularité de ces sabres, sur les quarts de finale, sur les 4 récents, il y a 3 qui étaient de l'équipe nationale sur les 5 qu'on a amenés à Dakar. Et à la finale, c'est les 2 grands poids que nous avons sélectionnés qui étaient en finale. Et finalement, celui qui a remporté la médaille d'or à Dakar et la coupe de la plus grande catégorie devant tout le monde, les Sénégalais, et c'est lui qui a gagné le sabre.
Déjà annoncé dans les titres, ces derniers jours, on observe une hausse du prix de la baguette de pain dans certaines boulangeries et chez les revendeurs détaillants de Niamey. Selon des grossistes, l'augmentation du prix de la farine de blé à l'international expliquerait cette situation. Écoutons les avis de ces consommateurs au micro de Salamatou Kadri.
Le pain fait partie quand même des trucs fondamentaux parce que les gens consomment le pain, c'est-à-dire dans leur alimentation. Et je crois bien que c'est pas comme ça de façon unilatérale qu'il faut fixer le prix du pain. Il fallait d'abord qu'il y ait une concertation pour qu'on explique aux gens pourquoi. Est-ce que s'il y a une augmentation au niveau international ou bien au niveau local de la farine de blé, est-ce que l'électricité a augmenté? Est-ce que la main-d'œuvre a augmenté? Et c'est dessus tout ça. Une baguette dans un pays comme le Niger à 250 ou à 275 francs, l'année où on n'a pas produit,
Depuis le 31, le prix du pain a augmenté. Mais je pense qu'au Niger, là, il faut qu'on recadre les choses, qu'on remette toutes les choses dans leur contexte, qu'il y a un service de contrôle des prix au niveau de certains ministères. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas le prix du pain seulement qui augmente. Et les difficultés au Niger, c'est que quand quelque chose augmente, au lieu que quand la situation se stabilise, qu'on revienne à de meilleurs sentiments ou bien à l'ancien prix, c'est le contraire.
Les cultures de contre-saison ont débuté au niveau des aménagements hydro-agricoles de Difa. Selon le directeur de l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, pour une meilleure production en tant que gestionnaire administrative, son service aide les paysans à mettre en valeur leurs terres. Sabu Ibrahim au micro de Guidi Abdrahman.
Par rapport aux activités de contre-saison, certains producteurs ont commencé, notamment à l'ADA, au niveau du CBLT, mais on n'a pas la situation exacte pour le moment de nombre de producteurs ayant commencé ces activités. Parce que c'est en fin de mois qu'on fait le rapport mensuel. Nous projetons convoquer les producteurs en fin de mois prochain pour savoir exactement quel est le niveau de la mise en valeur pour la deuxième campagne sur les aménagements hydro-agricoles. Nous sommes là en aide les paysans dans le choix des spéculations, dans la détermination du moment à mettre en valeur une culture et sur les techniques à appliquer au cours de l'évolution phénologique.
Toujours à Difa, les habitants de Barwa et Garindogo, récemment retournés dans leur terroir d'attache, ont bénéficié le jeudi dernier d'un don de matériel agricole de la part du programme de cohésion communautaire au Niger. Pour rappel, cela faisait 5 ans qu'ils ont quitté leur village pour cause d'insécurité. Arimi Mustapha, premier adjoint du conseil régional de Difa, nous en dit davantage au micro de Moussa Mani.
Conformément à l'appel du chef de l'État et du gouvernement qui a demandé d'accompagner les communautés qui ont volontairement rejoint leur village natal. C'est dans ce cadre-là que nous venons de réceptionner ce soir un lot de 100 motopompes, 100 brouettes, 100 charrettes, 100 pulvérisateurs, des pelles pour permettre aux jeunes ruraux qui viennent de regagner leur village de commencer les activités et de se prendre en charge. Nous réitérons vraiment notre remerciement au PCCN pour être donc l'un des premiers partenaires à accompagner les communautés dans le sens donc du retour au village natal.
Revenons à Niamey. Comparativement à l'année dernière, à la même période, on constate une légère hausse du prix de la paille et du séco. Notre équipe a fait le tour de quelques points de vente de la capitale et des revendeurs expliquent les raisons de cette augmentation.
Ceux qui restent sur place ne peuvent pas savoir le rendement en paille de la saison. L'année dernière, à la même période, nous avions déjà rempli ces lieux avec la paille, ce qui prouve que la saison a été bonne. Et donc, nos fournisseurs ne feront que se succéder. La cause du manque de paille cette année est l'insuffisance des pluies. Nous sommes actuellement vers la fin des récoltes. Et c'est lorsque les récoltes seront totalement terminées que la charité commence. Nous achetons présentement la boîte de feuilles de haricots à 750 francs l'unité pour le revendre à 1000 francs. Mais il y en a que nous-mêmes achetons à 1000 francs. Or, l'année dernière, en pareil moment, la boîte de feuilles de haricots varie entre 700 et 800 francs. Ça n'a pas encore atteint 1000 francs.
L'année dernière, à pareil moment, on nous amenait les secos en grande quantité. De votre arrivée à ce moment, vous aurez dû voir venir 3 à 4 charrettes livraires. Si la saison a été bonne, on nous les livre ici même à 1000 francs ou 1250 francs l'unité. Or, aujourd'hui, si tu en trouves, c'est à peine que tu l'auras à 1500 francs l'unité.
C'était des propos recueillis par Adama Dawaki, Assoumane Aboubakar et Farid Bourayma. En bref, les attaques des groupes armés non étatiques de la région de Tillabéri ont provoqué la fermeture des écoles dans certaines localités, comme le département de Saï, où on dénombre 42 écoles fermées à Ourogelado et 12 à Tamou. Selon la direction départementale de l'éducation de Saï, plus de 3600 élèves, dont 1700 filles, sont privés du droit à l'éducation pour cause d'insécurité. Ainsi, 74 enseignants, dont 5 du secondaire, ont été redéployés dans les communes de Saï et de Tillabéri, précise la même source. Le rouga, chef des bergers, et le garceau, responsable de la pérennisation de la tradition, sont des fonctions de la communauté peuld au Niger. Les détails avec Hassan Mourini, rouga du Hamdelaï, région de Tillabéri, interrogé par Adam Adawaki.
Le rouga est le responsable de tous les garçons. De ce fait, il est responsable de tous les éleveurs. Donc tout ce qui est relation entre les éleveurs et les autorités publiques, les chefs traditionnels et autres institutions doivent passer par le rouga. Le garçon, quant à lui, s'occupe des relations entre éleveurs et tout ce qui concerne l'élevage. Par exemple, il doit veiller à ce que chaque éleveur soit gardien de la tradition, le reflet du pratiquant type de l'élevage, tel que avoir toujours un couteau avec soi, de quoi faire du feu et du loup. Car un aliment peut tomber suite à un coup de bâton ou autre, et sans couteau, tu ne peux rien y faire pour le secourir. Si tu n'as pas de feu aussi, en 2 ou 3 jours, la viande va se gâter. Et si tu n'as pas de l'eau, quel que soit votre nombre, vous ne pouvez pas rester sur place pour attendre les secours.
La radio et télévision Tambara, partenaire du studio Kalangu, a célébré samedi 1er janvier 2022 à Niamey son 22e anniversaire. Un groupe de presse ayant pour ligne éditoriale la promotion de la femme et de l'enfant a rappelé Madame Fatoumata Hamidou, la représentante de la présidente directrice générale, dans des propos recueillis par Michel Dedji.
La radio Tambara a vu le jour le 1er janvier 2000 à Niamey, une initiative d'une femme, Madame Hambali Nehawa Abdou. Quant à la télévision Tambara, elle a été créée en 2010 avec au départ une couverture analogique sur toute la région de Niamey avant de disposer également d'une couverture nationale avec l'avènement de la TNT au Niger. La radio et télévision Tambara est le premier groupe de presse pour la femme au Niger. Le groupe de presse Tambara a pour ligne éditoriale la promotion de la femme et de l'enfant.
En matière de bonne gouvernance, chaque année, les hautes autorités de la République du Niger ont l'obligation de déclarer publiquement leurs biens et patrimoine à la Cour des comptes. Ne pas s'y conformer déclenche des sanctions et tout retard de la déclaration entraîne des amendes, souligne le juriste Amadou Hassan Diallo, directeur exécutif de l'ONG Tri-Niger. Il explique au micro de Balkissa Hamidou dans la partie magazine de cette édition.
En matière de bonne gouvernance, il est recommandé à une certaine catégorie de personnes, les hautes autorités, de déclarer leurs biens. Où et comment doit-on déclarer ses biens?
La déclaration de biens se fait à la Cour des comptes. La Cour des comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques. Elle n'est pas une juridiction ordinaire, elle est une juridiction financière. C'est des juges financiers. Jusqu'ici, il n'y a pas un modèle type de déclaration. Mais des discussions que nous avons eues avec le président de la 4e chambre, il y a un format qui est en train d'être développé, qui est dans le circuit du gouvernement pour être adopté, qui dira de manière très claire comment est-ce qu'il faut faire la déclaration. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un format type. L'idée donc, c'est de faire en sorte, à travers ce format, qu'il y ait une possibilité de mise à jour. Il y a la nécessité de rendre compte de la gestion, et c'est ce qui va permettre chaque année, à la publication du rapport général de la Cour des comptes, de voir comment est-ce que les personnalités gère l'État.
Est-ce que cette déclaration doit être confidentielle ou bien publique?
C'est une déclaration publique. En France, par exemple, les rapports de la Cour des comptes sont attendus avec autant d'intérêt que les résultats d'une élection présidentielle. Parce que c'est tout à fait normal qu'on sache ceux qui ont un mandat, ceux qui doivent diriger, gèrent les biens publics en France. C'est un événement assez important. Tout comme chez nous, le rapport public est présenté au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Il est disponible en ligne, il est disponible à la Cour des comptes. C'est un document public. Et c'est normalement à partir de ce document justement que les gens peuvent développer des plaidoyers pour dire qu'il faut améliorer ceci, il faut améliorer cela.
Est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour des personnes qui refusent de déclarer leurs biens?
Oui, bien évidemment, la loi portant sur la Cour des comptes a prévu des sanctions. D'abord pour les retards dans la déclaration. C'est 50 000 francs par jour de retard dans la déclaration. Et lorsqu'il y a un refus, le parquet général près de la Cour des comptes peut parfaitement poursuivre personne récalcitrante dans la déclaration. Et donc là, ce sera des juridictions répressives. Mais seulement l'idée c'est quoi? C'est que je disais tout à l'heure que la Cour des comptes est une juridiction financière. Les parquets de ces juridictions ne sont pas des fois des parquets très offensifs. La dernière fois, la Cour des comptes a relevé qu'il y avait des personnalités qui n'avaient pas déclaré leurs biens, mais on est resté là-dessus. L'idée, c'est que quand c'est public, que les citoyens organisés à travers les associations de défense des droits de l'homme qui travaillent dans le domaine de la gouvernance, ou la Halcia, ou même le procureur, parce que le procureur de la République, quand il a connaissance d'une infraction, doit...
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre dans un instant le journal Antamachek avec Tajissir Ali.